Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International, émission exceptionnelle cette semaine à Berne, au cœur de la ville, au cœur du pouvoir fédéral suisse, avec pour m'accompagner Serge Anderlin du journal Le Monde, journal partenaire de l'émission. Bonjour Serge.
Bonjour.
C'est une première. La Suisse va prendre la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies dans quelques jours, ce sera le 1er mai. C'est elle donc, pays à la neutralité actuellement discutée, contestée, qui va diriger les débats et tenter d'avancer sur plusieurs dossiers, le climat, la construction de la paix ou encore la protection des droits des civils. Quel résultat peut-elle obtenir en un mois, durée de cette présidence? Pour cela, sa neutralité sera-t-elle un atout et cette neutralité peut-elle être amendée, assouplie sous la pression de plusieurs pays qui aimeraient bien voir la Suisse aider davantage l'Ukraine face à la Russie? Pour répondre à ces questions, nous recevons Alain Berset. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Confédération Suisse, conseiller fédéral chargé de l'intérieur. Nous allons aussi parler avec vous d'un dossier qui vous a beaucoup occupé ces dernières semaines, la chute de Crédit Suisse, la deuxième banque du pays, et son rachat par UBS, dossier qui continue d'ailleurs à susciter beaucoup de réactions en Suisse, mais aussi à l'étranger. Nous évoquerons aussi la lutte contre le réchauffement climatique et puis les prochaines élections fédérales qui auront lieu ici en Suisse en octobre prochain. Mais avant de vous entendre, Alain Berset, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané.
Je me suis beaucoup entraîné. Je me suis très bien préparé. Aujourd'hui, la course était difficile à cause de la pluie. J'ai dû me battre jusqu'au bout.
Van Schebet, vainqueur cette semaine du plus vieux marathon du monde, le marathon de Boston. C'est un clin d'œil pour vous à l'inversé. Vous qui venez d'une famille qui a pratiqué la course de fond, vous-même, vous avez couru, alors pas le marathon, mais le 800 mètres à un haut niveau, champion junior de Suisse romande. Le 800 mètres, c'est une discipline solitaire comme les autres courses, de demi-fond ou de fond. Est-ce que la politique, qu'on présente souvent comme un travail d'équipe, est aussi un travail solitaire?
Vous savez, d'abord en athlétisme, j'aimais beaucoup le relais. J'aimais beaucoup les relais, courir justement avec d'autres, ce qu'on fait sinon relativement peu. Mais c'est vrai que tout le travail pour le sport, pour l'athlétisme, c'est un travail qu'on fait aussi beaucoup seul. On le fait avec d'autres en groupe, mais pour soi-même.
Et
la politique, c'est aussi un mélange des deux. C'est dans le fond d'avoir avec des valeurs, d'avoir des projets, d'avoir des idées pour l'organisation de la société, mais après on le fait jamais seul. On le fait dans le cadre des institutions, dans le cadre d'un gouvernement, surtout en Suisse à 7, et avec le Parlement, avec les institutions et aussi avec le peuple.
7 conseillers fédéraux qui constituent donc le Conseil fédéral, le gouvernement de la Suisse. Le sport revient souvent dans l'actualité, pas forcément pour parler de résultats, de performances, mais de participation, celle des athlètes russes aux prochains Jeux olympiques de Paris. Est-ce que vous êtes favorable à la participation de ces athlètes russes?
Question délicate évidemment, parce qu'on a une situation inédite sur le continent depuis quand même très longtemps, une guerre ouverte sur le continent européen, une agression brutale de la Russie contre l'Ukraine, avec tout ce que cela signifie. Mais en même temps, il y a une population russe qui ne fait pas qu'approuver ce qui se passe. On le sait bien, on le sent bien. Et puis, je suis partagé, parce que pour les athlètes, évidemment, eux s'entraînent et se travaillent. Ils font du travail pour leur sport, mais ils appartiennent aussi à un pays. Et la participation, aujourd'hui, pourrait leur être refusée, ce qui, naturellement, est difficile sur le plan individuel, mais qui peut aussi s'expliquer sur le plan politique.
Est-ce que le sport est politique? C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, juste avant la Coupe du Monde de football.
Mais tout est politique. Tout est politique. Le sport l'est naturellement aussi.
Alain Berset, celles et ceux qui nous regardent de Suisse vous connaissent parfois bien. Cela fait maintenant un peu plus de 20 ans que vous faites de la politique. Les autres, un peu moins. Retour sur votre parcours avec Anaïs Surtad et Audrey Demare. C'est le Focus International.
Que ce soit pour rencontrer le président du Botswana, du Mozambique ou de l'Allemagne, depuis 4 mois Alain Berset, vous revêtez à nouveau votre costume de président de la Confédération Suisse. La dernière fois, c'était en 2018. Spécificité suisse, cette présidence est tournante et ne dure qu'un an.
Il ne faut jamais oublier que dans notre pays, le président, ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le Conseil fédéral, c'est le collège dans son ensemble.
Pour ce deuxième mandat présidentiel, vous préparez une échéance de taille, une première pour votre pays. Au mois de mai, la Suisse prendra la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Parmi les priorités, un dossier particulièrement important évoqué en République démocratique du Congo, aux côtés du président Tshisekedi.
Nous souhaitons vraiment porter l'attention sur celles et ceux qui sont parmi les premières victimes de situations d'insécurité, de déplacement, qui sont les populations civiles. C'est ça que nous souhaitons faire en sorte de porter ce débat jusqu'au Conseil de sécurité.
Socialiste fribourgeois, ancien étudiant en sciences politiques et économiques à l'université de Neuchâtel, vous êtes une figure de la vie politique suisse. À 51 ans, vous êtes, au Conseil fédéral, à la fois celui qui est le plus jeune et celui qui siège depuis le plus longtemps.
Est élu avec 126 voix,
Alain Berset.
C'est en 2011 que vous avez été élu pour la première fois. Vous n'aviez que 39 ans. Depuis, vous dirigez le département fédéral de l'intérieur et êtes en charge, entre autres, de l'égalité homme-femme et de la santé. C'est vous qui avez dû gérer la pandémie. Une période difficile durant laquelle vous avez pris des décisions qui vous ont valu des menaces. Aujourd'hui, pas de menaces mais des critiques, en Suisse comme sur la scène internationale, après des déclarations sur la guerre en Ukraine. Dans la presse zurichoise et genevoise, vous avez dénoncé une frénésie, une ivresse de la guerre. Vous avez depuis admis ne pas avoir utilisé les bons mots.
J'ai l'impression, quand je vois les conséquences et les réactions, qu'on peut certainement se poser la question du choix des mots. Ce que j'ai remarqué, la discussion a presque toujours été menée dans une logique de guerre.
Guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation. Au cours des prochains mois, à la tête de la Confédération, Alain Berset, vos défis seront nombreux. Agirez-vous conformément à votre maxime, aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire.
Voilà, agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, c'est un beau slogan. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Merci. Oh, c'était vraiment à l'époque de la pandémie. Ouais. C'était au moment où on rouvrait les activités après une fermeture. On souhaitait les ouvrir aussi vite qu'on pouvait le faire, mais sans prendre de risques inconsidérés.
Vous pourriez l'appliquer à d'autres sujets, à d'autres moments.
Je crois que il y a eu beaucoup de réactions suite à cette intervention et à cette phrase, parce que je crois que c'est quelque chose de très suisse. De très réfléchi, de très posé, un pas après l'autre, et puis on essaye d'avoir un équilibre qui soit durable.
Commençons par l'actualité de la semaine, Alain Berset. On l'a vu dans le focus, l'une des images de la semaine, votre poignée de main avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Vous êtes allé le rencontrer à Berlin. Vous avez évoqué avec lui le dossier qui a tendu les relations entre les deux pays, hein, celui de la réexportation d'armes, des armes que produit la Suisse et que l'Allemagne a achetées, en l'occurrence des obus pour certains de ses chars. Elle voudrait les données à l'Ukraine, mais la Suisse s'y oppose au nom de son principe de neutralité. Mmh. Olaf Scholz vous a dit qu'il espérait une évolution, qu'il se passe quelque chose. Alors, va-t-il se passer quelque chose ? La situation va-t-elle évoluer ?
Oui, les choses évoluent beaucoup en réalité, mais c'est vrai que dans la période très troublée qu'on a maintenant, et tout le monde a été surpris par la brutalité de ce changement depuis maintenant bientôt 15 mois ou 16 mois. En fait, la Suisse a toujours eu un rôle un peu particulier avec la neutralité, avec l'engagement pour la médiation, pour la paix, pour le dialogue, avec la Genève internationale. Nous sommes dépositaires des conventions de Genève, aussi cette force du droit humanitaire, du CICR. Et évidemment, dans ces conditions, la Suisse a toujours renoncé à exporter du matériel de guerre dans les zones de conflit et à empêcher les réexportations. On ne voit pas tellement de raisons aujourd'hui de dire mais on ne va pas respecter ces règles qui existent. Si on veut changer quelque chose, alors il faut un débat au Parlement et modifier les règles.
Mais vous dites que les choses vont évoluer. Comment elles vont évoluer ?
La loi peut être modifiée.
Vous le souhaitez ?
Nous sommes assez réservés, précisément parce que nous pensons qu'il y a des rôles différents de différents pays face à la guerre. Il est évident que l'agression de la Russie contre l'Ukraine ne peut pas rester sans une réponse très claire. Nous l'avons définitivement très fortement condamné. Nous avons demandé le retrait de la Russie du territoire ukrainien et nous sommes naturellement très solidaires de tous les pays qui se sont engagés aux côtés de l'Ukraine. On a repris les sanctions de manière intégrale, ce que la Suisse n'avait jamais fait jusqu'ici. Et naturellement, nous souhaitons que la situation pour l'Ukraine évolue favorablement. Cela dit, La Suisse a une législation aujourd'hui qui lui interdit d'exporter du matériel de guerre et des zones de conflit. Ce sont nos lois et puis elles doivent être naturellement appliquées.
Alors, ces lois suscitent parfois l'incompréhension, parfois la colère aussi de certains de vos partenaires allemands, notamment à la suite de votre visite. Des députés allemands ont réagi. Je vous propose d'en écouter deux des propos recueillis par nos partenaires de la RTS.
Si tout le monde se comportait comme la Suisse, l'Ukraine n'existerait plus. Car la loi du plus fort gagnerait et dramatiquement, la force du droit perdrait.
Si la Suisse attache autant d'importance à la neutralité, alors il faudrait envisager de manière pragmatique de produire en Allemagne ou dans d'autres pays de l'OTAN les munitions et éventuellement aussi les armes qui sont fabriquées en Suisse pour que nous y ayons accès quoi qu'il arrive.
La position suisse que vous défendez, Alain Berset, est-ce qu'elle pourrait, finalement, on l'entend hein, dans les propos de cette députée allemande, faire perdre des marchés à la Suisse ?
Non, je ne crois pas. Vous savez, en même temps, quand les armes ont été achetées, ou les munitions, et on ne parle pas d'un grand nombre de munitions, ont été achetées par l'Allemagne il y a quelques dizaines d'années, eh bien, les règles étaient claires. Et puis l'Allemagne a souhaité manifestement respecter le contrat qui a été fait. Ça aurait pu être autrement, on n'aurait pas pu dire grand-chose. Donc à partir de là, on doit constater qu'il existe aussi un débat entre des pays. Et d'ailleurs, l'Allemagne a fait un chemin très important. On parle de Zeitwende en Allemagne. La Suisse a une législation qu'elle applique. Mais nous ne sommes pas du tout indifférents à ce qui se passe. Et moi, je dois m'inscrire vraiment en faux contre cette impression que parce que la Suisse n'exporte pas d'armes, comme pays neutre, comme pays dépositaire des conventions de Genève, comme pays qui est la maison du CIC, alors qu'on est indifférent, c'est le contraire. On est fortement engagé. On a eu la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine en premier, déjà au mois de juillet 2022. On est très engagé financièrement aux côtés de l'Ukraine. J'étais au téléphone encore récemment avec le président Zelensky et je crois que les Ukrainiens comprennent aussi ce que fait la Suisse.
Qu'est-ce que vous répondez, Alain Berset, à ceux qui, on passe encore quelques instants sur cette neutralité, disent que être neutre aujourd'hui, face au conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est finalement prendre le parti de l'agresseur. C'est ce que dit notamment la ministre allemande des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous lui répondez?
C'est extrême et c'est faux. Il faut, je crois, garder aussi un peu de raison dans ce débat. Nous avons clairement condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous avons dénoncé une violation crasse du droit international. Nous nous engageons aussi dans ce sens aux Nations Unies, dans tous les échanges que nous avons. Nous avons, aux côtés de l'Ukraine, organisé cette conférence sur la reconstruction. Nous allons, dans les prochaines années, aider l'Ukraine avec un montant pour nous qui est très important, 1,8 milliard de francs sur les quelques prochaines années. Nous avons repris l'intégralité des sanctions européennes à l'égard de la Russie. Franchement, de dire qu'on se met avec cela du côté de la Russie, c'est vraiment excessif.
Vous parlez.
Et comme c'était excessif, eh bien, que voulez-vous qu'on fasse avec ça?
Mais si je peux me permettre, Monsieur le Président, il y a quand même le sentiment en Europe et au-delà que la position suisse n'est pas très claire. Je prends un exemple, il est tout près de nous. À travers cette fenêtre, on a la représentation de la Commission européenne à Berne qui arbore son drapeau, le drapeau européen, à côté duquel pend un drapeau ukrainien. C'est le seul qu'on peut voir à Berne sur un bâtiment public, si je ne fais erreur. D'ailleurs, en Suisse, on n'en voit pas sur les bâtiments publics. Pourquoi la Suisse n'a-t-elle pas mis de drapeau européen sur ses bâtiments publics?
Ukrainien,
pardon. Ça se joue. Écoutez, c'est une question de symbole. Si vous vous promenez au Parlement ou ici, vous allez voir des drapeaux ukrainiens un peu partout. Il y a beaucoup de parlementaires qui portent les deux drapeaux. Franchement, ça, c'est une question de symbole. On est au-delà de cela. On est au-delà de cela avec un engagement très clair et très fort aux côtés de l'Ukraine. Et c'est ça qui doit compter à la fin. C'est facile d'arborer un drapeau. Je ne dis pas que ceux qui le font ne font rien de sérieux derrière. Mais ce n'est pas à cela que ça peut se jouer. Ça se joue ailleurs et encore une fois avec la Suisse qui a de longues traditions, un rôle particulier à jouer. Nous le jouons d'ailleurs et nous avons surtout une législation qui est connue de toutes et tous depuis longtemps qui nous interdit, en raison de la neutralité, d'exporter du matériel de guerre vers des zones de conflit. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pour quelles raisons, alors que l'on reproche à d'autres de ne pas respecter le droit, et notamment le droit international, pour quelles raisons est-ce que la Suisse devrait aujourd'hui, sans changer les lois, ne pas respecter son propre ordre juridique? Cela dit, un débat existe sur ces questions, le Parlement s'est penché sur le sujet, et je vois bien que ce débat va se poursuivre, et c'est une bonne chose.
On parle beaucoup de neutralité depuis le début de cette émission, neutralité suisse, qui est un concept, peut-être, compte tenu des circonstances, difficile à comprendre pour celles et ceux qui nous regardent à travers le monde. Elle est d'ailleurs de plus en plus souvent critiquée, hein. Mais quelle définition pourriez-vous en donner pour que tout le monde, tous ceux qui nous regardent puissent bien comprendre ce qu'est la neutralité en Suisse.
La neutralité est définie sur le plan international et sur le plan national comme ne pas participer à des conflits ouverts. C'est-à-dire ne pas, ou alors traiter également les parties au conflit. Et pour la Suisse, avec les conventions de Genève, la très forte importance du droit humanitaire, cela signifie ne pas livrer d'armes dans des zones de conflit. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas que d'autres le fassent, avec des rôles, encore une fois différents, avec des rôles différents sur le continent. Et c'est ça, la neutralité. Et bah, c'est une situation que nous avons depuis longtemps. Il nous paraissait, on a parfois eu des problèmes dans le passé, relativement difficile de nous engager pour le droit international, pour le droit humanitaire, avec le CICR, les conventions de Genève qui sont ici, et ensuite de retrouver des armes suisses sur des zones de combat.
On va venir à cette défense des droits des civils. Encore un mot sur la neutralité. Christophe Blücher, l'ancien président de l'UDC, le premier parti suisse, hein, parti populiste, disait la semaine dernière dans les colonnes du Monde que la Suisse a besoin de plus de neutralité et non pas de l'aménager. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Je ne vois pas ce que pourrait signifier avoir plus de neutralité. Je crois que nous avons cette neutralité. Elle est naturellement sous une très forte pression lorsqu'il y a un conflit. C'est ce qu'on voit exactement maintenant. Je ne crois pas qu'il faille changer ces règles pour les renforcer. La neutralité, encore une fois, ça n'est pas l'indifférence. Si on devait dire être neutre, c'est se tenir à distance de tout, ne pas être aux côtés de l'Ukraine. Et nous sommes fortement engagés aux côtés de l'Ukraine. On a l'impression, comme le débat se déroule maintenant, que ce n'est pas le cas. Nous sommes fortement aux côtés de l'Ukraine, très fortement engagés. Nous avons repris la totalité des sanctions à l'égard de la Russie. Ça doit évidemment rester possible. La question qui se pose par contre est de savoir si nous souhaitons, nous pouvons exporter du matériel de guerre sur les zones de conflit et notre droit nous l'interdit.
Les sanctions, venons-y. La Suisse en a pris contre deux entités russes cette semaine, le groupe Wagner et puis un média russe, Riafan, des sanctions qu'avait déjà prises l'Union européenne il y a déjà plusieurs semaines. On a l'impression que la Suisse, dans ce dossier des sanctions, est toujours un peu à la traîne et qu'on lui force la main. Pourquoi avoir attendu autant avant de prendre ces sanctions ? C'est pas la première fois.
Non, si quand même, parce que je crois qu'on a pris les sanctions 4 jours après l'agression. Et on a une tendance à ne pas faire d'effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on dit les choses quand elles sont réalisées. Et tout le monde voit bien, sur le plan européen, que la mise en œuvre des sanctions, c'est quelque chose qui est très très vite décidé et annoncé, mais que la réalisation concrète est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a une immense diversité d'acteurs. Et donc, nous avons, je crois, de manière très conséquente mis ces sanctions en place. On n'a jamais fait un pas de ce type-là. Il était évidemment évident et nécessaire cette fois-ci, et avec des résultats concrets. Vous savez, quand on nous critique en disant « oui, non, mais bon, la Suisse n'est pas vraiment très très engagée dans le blocage des fonds », nous avons bloqué plus de 2 fois plus de fonds que l'Allemagne et la France réunies. Je ne dis pas qu'eux n'ont pas fait leur travail, nous avons des situations différentes, mais ça montre que nous prenons ça très au sérieux.
Peut-être qu'il y a un peu plus d'argent russe en Suisse que dans la France et l'Allemagne réunies.
C'est la raison pour laquelle nous avons seuls 2 fois plus que les deux additionnés. C'est quand même beaucoup pour un pays de 8 millions d'habitants.
Mais comparé au chiffre global qui est estimé, ça paraît extrêmement peu. C'est un peu ce qui circule d'ailleurs. On dit, les banquiers suisses eux-mêmes reconnaissent par leur association que le montant global serait jusqu'à 200 milliards. Il n'est pas forcément entièrement délictueux, on est bien d'accord. Mais enfin, le montant bloqué, 7,5 milliards, si je ne fais erreur, paraît assez petit. Comment s'explique ce décalage ?
Je ne sais pas d'où vient ce montant global. Moi, je n'ai pas d'éléments qui permettent de savoir de quoi il retourne exactement. Et puis, ça vaudrait la peine de vérifier si ce chiffre correspond à une réalité ou pas. Ça, c'est le premier élément. Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez. Moi, je ne le sais pas. Ensuite, simplement, vous l'avez dit vous-même, il y a une partie importante de ces fonds qui n'ont rien à voir avec les sanctions et avec le blocage, manifestement. Et nous, de manière très sérieuse, très directe, très engagée, nous bloquons tous les fonds dont nous avons connaissance qui sont problématiques. Et nous avons d'ailleurs dit à nos partenaires européens et au-delà, si vous avez le moindre sentiment que vous voyez quelque chose quelque part que nous n'aurions pas vu, même dites-le nous. On serait heureux de le voir rapidement et de pouvoir agir sur ce qu'on n'aurait éventuellement pas vu, parce qu'encore une fois, il y a une multitude d'acteurs et c'est très très complexe. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à être concernés par cette complexité.
7,5 milliards de francs suisses d'actifs bloqués donc en Suisse à l'inversé. Ces chiffres qui étaient déjà donnés au mois de novembre, on est au mois d'avril. Pourquoi aucun changement n'a eu lieu sur ce point-là ? Pourquoi aucun actif supplémentaire n'a été bloqué entre
Il n'y a rien qui est arrivé depuis, non? Alors ça, certainement pas. Il n'y a rien qui est arrivé depuis.
Des nouvelles sanctions ont été prises par l'Union européenne.
Les sanctions essentielles ont été prises très tôt, pour le dire franchement. Elles ont été prises très tôt, ça a été bloqué. Honnêtement, moi, j'ai ce chiffre de 7,5 milliards en tête. Je ne suis pas en charge vraiment de déblocage concret. Je pourrais regarder pour quelles raisons ça n'a pas évolué, mais je pars de l'idée que c'est parce que ça a été bien fait au départ.
La neutralité doit, en théorie, permettre à la Suisse aussi d'être un médiateur crédible dans un conflit. C'est ce que vous rappeliez il y a quelques minutes. Compte tenu des sanctions que la Suisse applique, est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que la Russie vous regarde encore comme un potentiel médiateur dans ce conflit? Est-ce que la Turquie, finalement, n'est-elle pas mieux placée que vous pour servir
de ça? C'est difficile à dire. Il faudra voir aussi ce qui va se produire plus tard. En tout cas, la Russie a assez mal réagi naturellement aux sanctions, a placé la Suisse sur une liste d'États, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, hostiles. Je crois que c'est comme ça que ça a été fait. Ce qui d'ailleurs montre bien qu'on a pris parti pour la victime et contre l'agresseur. Bon, ça, c'est un élément important. Cela dit, évidemment, il va une fois devoir se poser la question de comment est-ce que ça peut se poursuivre. Et à ce moment-là, naturellement, la Suisse pourrait avoir peut-être un rôle à jouer. C'est pas la question de savoir aujourd'hui qui veut se positionner ou qui veut le faire. Ça n'est pas cela. Nous avons une ligne qui est très claire avec les valeurs que nous portons, avec la neutralité sur le plan militaire, mais uniquement sur le plan militaire, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et je crois qu'on peut simplement que se réjouir qu'il y ait plusieurs acteurs qui jouent un rôle dans ce cadre-là.
Est-ce qu'on peut rester neutre quand on prend des sanctions?
Nous sommes neutres sur le plan militaire, mais pas indifférents. Et si la neutralité, et peut-être que certains d'ailleurs souhaiteraient voir la neutralité évoluer dans le sens de ne jamais prendre parti, de ne jamais prendre de sanctions. Alors à ce moment-là, on ne serait plus non plus dans la ligne que la Suisse a défendue depuis maintenant longtemps, avec un équilibre, je le concède volontiers, qui est difficile à trouver. Mais il est difficile pour tout le monde dans une situation qui a brutalement changé depuis une quinzaine de mois.
Justement, c'est un peu mission impossible d'expliquer ça à l'étranger. On ressent un peu aujourd'hui partout autour de la Suisse, y compris chez les voisins, de l'incompréhension, voire un certain agacement. Vous le ressentez aussi? Et comment vous essayez de vous en sortir, si je peux m'exprimer ainsi, pour clarifier cette position?
Non, je pense qu'on a une tendance dans les observateurs, notamment en Suisse, à vouloir toujours voir les choses de manière très négative. Moi, j'étais en Allemagne. J'ai rencontré en Allemagne le chancelier Scholz, le président Steinmeier. C'était pas aussi négatif que ça. Il y a un certain respect quand même pour les États souverains, avec des positions qui, par moments, peuvent marquer quelques différences. J'ai eu l'occasion à Davos, au début de l'année, de rencontrer un nombre important de chefs d'État et de gouvernement, de pays européens d'ailleurs pour certains très fortement concernés parce que voisins directs ou alors très proches. Et je crois qu'on doit pouvoir expliquer ce que nous faisons, pour quelles raisons nous le faisons. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que c'était compris. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais qu'il y a une compréhension naturellement pour des positions qui peuvent avoir quelques variations. Et quand on parle de la Suisse, de la neutralité suisse, qui est une neutralité militaire, de ne pas participer à des conflits, eh bien, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pas comme si on le découvrait maintenant. On a l'impression que
ça existe depuis le début du 19e siècle.
C'est connu depuis longtemps et c'est quelque chose qui a été aussi fixé sur le plan international avec les accords de La Haye que la Suisse a repris.
En début du 20e, cette fois-ci-là. La Suisse va prendre la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU dans quelques jours, présidence tournante. Ce sera le 1er mai. Elle a quatre priorités, vous avez un programme, l'efficience du Conseil, la construction de la paix, la sécurité climatique, nous allons y revenir, et puis la protection des populations civiles, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, une région où des millions de personnes ont été déplacées ces derniers mois à cause de plusieurs conflits, notamment celui qui oppose le M23 aux forces armées de la RDC. Voici quelques témoignages de ces civils déplacés.
Nous avons fui que nous avons vu que les combats commençaient à atteindre notre village. Il y avait de fortes détonations et quand nous avons vu les soldats du gouvernement en train de quitter leur position, nous avons pensé qu'ils avaient échoué. Du coup, il fallait se sauver. J'ai pris mes enfants et je suis arrivé ici.
J'avais l'obligation de fuir. J'ai vu des soldats qui transportaient des cadavres et des blessés. On a aussi entendu des explosions et de fortes détonations et tout le monde a commencé à fuir.
J'étais à Bulungu. Et je suis ici à cause de la guerre. Venir ici, à Goma, était la seule option, car les rebelles du M23 contrôlent toutes les autres entités. La vie est dure ici. Nous avons besoin d'aide.
Vous étiez en République démocratique du Congo la semaine dernière, Alain Berset, on l'a vu dans le focus. Nous avons besoin d'aide, dit à l'instant l'un de ses déplacés. Quelle aide la Suisse concrètement peut-elle débloquer ou aider à débloquer pour ces civils?
Ce que la Suisse peut faire, et on est engagé dans l'est du Congo depuis longtemps d'ailleurs, depuis une trentaine d'années, donc beaucoup de pays peuvent faire quelque chose de manière bilatérale. Dans le cadre du Conseil de sécurité, nous avons parmi ces quatre priorités la protection des populations civiles. C'est vraiment dans l'ADN politique de la Suisse de défendre cela, et nous souhaitons vraiment profiter de cette présidence pour porter le débat et pour, dans le fond, remettre le focus, remettre le projecteur sur une crise qui a été partiellement oubliée, et c'est dramatique. Moi, quand j'y étais à Goma, à Bukavu, j'ai visité le camp de réfugiés à côté de Goma. C'est une situation vraiment dramatique pour les populations qui sont concernées. Et il y a une responsabilité internationale, et notamment de l'ONU, et notamment de la communauté internationale, d'aider ces gens.
Est-ce qu'il y a des initiatives dont vous discutez déjà, des initiatives communes, concrètes, qui pourraient être mises en place dans les semaines, les mois qui viennent?
Une des choses qui m'a un peu inquiété, je dois vous le dire, quand j'étais dans la région, c'est de voir que la présence de l'ONU sur place, il y a une mission de l'ONU qui est là depuis une vingtaine d'années, la MONUSCO, qui est une présence importante. J'ai été relativement frappé de voir qu'elle est soumise à des critiques très fortes, qu'elle est soumise à beaucoup de fake news, de fausses informations, à du dénigrement, alors qu'elle joue, elle semble jouer un rôle qui est extrêmement utile dans cette partie du pays. Et nous aurons cette année aussi, dans le cadre du Conseil de sécurité, toute la discussion sur le renouvellement ou la reconduction ou la poursuite de ce rôle. Donc ça, c'est un élément très important. C'est la traduction, oui, d'une présence et de la responsabilité que prend la communauté internationale.
Dans cette région, on sait qu'il y a de fortes tensions entre la RDC d'un côté, le Rwanda de l'autre. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. C'est ce que dit aussi l'ONU. Un rapport a été publié il y a quelques semaines. Le Rwanda, lui, s'en défend. Est-ce qu'un dialogue est possible aujourd'hui entre les deux pays, d'après ce que vous avez vu sur place, et toujours dans cet esprit de construction de la paix, puisque c'est l'un des quatre axes de votre présidence?
Actuellement, j'avais l'impression que c'était assez difficile, je vous le dis franchement. Et c'est précisément la raison pour laquelle il y a besoin d'initiatives qui permettent de faire le lien, de refaire les contacts et de remettre les gens, les personnes concernées autour d'une table pour mener la discussion. Et il y a des initiatives qui vont dans ce sens.
Lesquelles?
Au niveau technique, j'ai eu l'occasion d'en discuter encore récemment avec des organisations internationales basées à Genève. Et puis le président Tshisekedi a pu me confirmer qu'effectivement, c'est difficile actuellement, mais tout le monde voit bien que sans discussion et sans dialogue entre les pays concernés, ça ne va pas s'améliorer.
Est-ce que c'est l'Afrique qui est le continent le plus concerné par ces problèmes de retour à la paix, de protection des civils?
Non, pas seulement, évidemment. Il y a l'Afrique. Moi, l'Est du Congo, où je me trouvais récemment. J'étais allé également plutôt dans l'année au Mozambique. La Suisse a joué un rôle très important depuis 7 ans, d'ailleurs maintenant 8 ans, dans le processus de paix au Mozambique. J'étais en contact déjà avec le président Nyusi, d'ailleurs en 2018. Aujourd'hui, des très grands progrès ont été faits. Mais pour autant, il reste des problèmes dans le nord du pays. J'ai pu d'ailleurs m'y rendre. J'ai pu aller à Cabo Delgado avec le président Nyusi. C'est un autre contexte qui peut être concerné. Et puis, bien sûr, il y a sur d'autres continents aussi des difficultés et des populations civiles qui sont touchées. On peut penser à la Colombie. On peut penser à ce qui se passe au Bangladesh avec Cox's Bazar et les déplacés Rohingyas. On a quand même beaucoup de contextes dans lesquels des populations civiles confrontées à des violences, à des conflits, doivent se déplacer, quitter leur maison, tout perdre. Et je crois que c'est pour eux, c'est pour elles et pour eux en premier qu'on doit agir sur le plan international.
J'aimerais bien vous entendre sur un autre point, l'efficience du Conseil de sécurité. C'est l'un des axes, encore une fois, de votre présidence. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que le Conseil de sécurité soit plus efficient, plus représentatif de ce qu'est le monde aujourd'hui?
Actuellement, c'est un peu compliqué, évidemment, parce que nous avons, avec les Nations Unies, un ordre, dans le fond, qui est l'ordre issu de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est retrouvé fixé dans les institutions internationales et au sein de l'ONU. Et cela pose comme problème aujourd'hui, avec le droit de veto des cinq membres permanents.
On les rappelle, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie.
Exactement. Et nous avons, avec cette situation. Vous avez mentionné la Russie. Eh bien, on voit bien que dans le conflit qui nous occupe aujourd'hui sur le continent, avec le droit de veto de la Russie, de facto, tout est bloqué. Mmh. Alors, il y a des initiatives pour changer cela. Il y a une initiative très intéressante de Liechtenstein, un état voisin de la Suisse, qui a fait passer l'idée que, dans un certain nombre de cas, eh bien, ces discussions peuvent se porter à l'Assemblée générale. Donc il y a des choses qui doivent bouger. La Suisse compte bien s'impliquer pour la discussion sur l'efficience du Conseil. Je crois qu'il y a surtout les membres non permanents qui ont un intérêt. Les membres permanents ne sont pas tellement intéressés à mener cette discussion. On comprend bien pourquoi. Ils ont une situation qui leur convient bien. Et nous nous sommes mis cela comme objectif parce que nous pensons que la Suisse peut apporter quelque chose avec ses réflexions institutionnelles dans ce domaine.
Est-ce qu'il y a une crise du multilatéralisme aujourd'hui, compte tenu de ce que vous dites et de ce que vous décrivez?
Il y a une crise du multilatéralisme qui connaît quelques années quand même, qui est déjà ancienne de quelques années. Je me souviens très bien en 2018 à New York, alors que le président Trump était en fonction aux États-Unis, alors que le président Bolsonaro venait d'être élu, on avait quand même une vraie discussion sur les institutions multilatérales. Avec, et c'était la bonne nouvelle, un très fort soutien à ces organisations, mais un vrai débat sur leur fonctionnement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, la pandémie est passée par là. Pendant des années, les contacts étaient physiques et les rencontres étaient beaucoup plus compliquées. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine avec un blocage au Conseil de sécurité sur cette question en raison du droit de veto de la Russie. Et oui, donc on doit parler, je crois, effectivement, de multilatéralisme en crise. Mais il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pas d'alternative au multilatéralisme. La seule alternative, c'est la loi du plus fort. Et ça peut être dans l'intérêt de quasiment personne, sauf du plus fort. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Et un pays comme la Suisse en particulier, qui est beaucoup trop petit pour être indifférent à ces questions, beaucoup trop grand, pardon, pour être indifférent à ces questions, mais trop petit pour peser tout seul, le rôle de la Suisse, mais avec, je crois, l'immense majorité de la communauté internationale, c'est d'avoir un multilatéralisme qui fonctionne.
Il n'y a pas d'alternative au multilatéralisme, dit le voile inversé. C'est pour ça que la Suisse reprend ses négociations avec l'Union européenne, les négociations qu'elle avait arrêtées il y a 2 ans.
Oui, évidemment. Vous savez, nous sommes géographiquement.
C'est une question de relation entre plusieurs pays.
On est situé au cœur du continent européen. Et nous avons, depuis très très longtemps, depuis toujours, d'excellentes relations avec les voisins. Nous avons des relations très très intenses. La Suisse, c'est 8,5 millions d'habitants, mais c'est 2 millions de passages frontières chaque jour, imaginez. 2 millions de passages frontières chaque jour dans un pays de 8,5 millions. Ça montre à quel point on est imbriqué avec toutes les populations, sur le plan culturel, économique, social, avec les pays qui nous entourent. Et donc, il a toujours été d'une importance centrale pour la Suisse d'avoir une relation claire, stable et durable avec l'Union européenne. Et nous sommes très heureux des progrès qui ont été réalisés récemment. On a donné maintenant le mandat de définir un petit peu comment est-ce qu'on pourra recommencer ces discussions. Et nous souhaitons évidemment pouvoir stabiliser tout cela.
Il y avait des sujets qui vous avaient fâché avec l'Union européenne. Il y avait la protection des salaires, les questions liées aux aides d'État, la liberté de circulation. Tout ça sont des sujets sur lesquels vous êtes prêts à discuter maintenant.
Ce n'est pas des sujets qui fâchaient. C'était des sujets de préoccupation aussi pour la population suisse, parce qu'évidemment, nous avons, avec notre marché du travail, un marché du travail qui est également fortement imbriqué avec les pays qui nous entourent, nous avons une protection des salaires, qui est une question qui est très importante, qui doit être fixée, qui avait été bien réglée auparavant et qui reste un sujet de préoccupation, et beaucoup d'autres sujets qui nous concernent et qui nous touchent. Mais je crois vraiment qu'il existe une volonté dans le pays de pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus absolu sur le sujet. Vous avez parlé tout à l'heure de l'UDC, qui est le parti, c'est le plus grand parti du pays, et il reste fondamentalement opposé à une évolution dans ce sens. Mais je crois que nous avons un intérêt à des relations stables, et c'est aussi notre, dans le fond, l'intérêt est celui de nos voisins, aussi pour la prospérité commune.
On va parler dans quelques minutes de la crise qu'a connue Crédit Suisse, qui n'est pas encore tout à fait terminée. Avant ça, quelques mots sur l'environnement. Là aussi, c'est un axe de votre présidence au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'actualité, il y a la sécheresse dans plusieurs régions d'Europe, du Sud, en Espagne, dans le sud de la France, notamment dans d'autres régions du monde, aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord, mais intéressons-nous à l'Europe, avec parfois des incendies, et des incendies particulièrement forts et impressionnants, des feux qui ont détruit, par exemple en France, près de 1000 hectares de végétation, près de Cerbère, à l'extrême sud de la France, ces derniers jours, du jamais vu pour ce pompier.
C'est triste de voir nos montagnes partir en fumée en quelques heures. Depuis que je suis pompier, je pense que c'est la première fois que je vois un sinistre de cette ampleur.
Voilà. On n'a jamais vu de sinistre de cette ampleur aussitôt dans l'année. Pareil pour les sécheresses. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images ?
Eh bien que les choses changent beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait il y a encore une dizaine d'années. Moi, j'étais très frappé. Il faut aller plus vite, bien sûr. J'étais très frappé. Vous savez, on a eu ces discussions portées par le GIEC, on a eu les prévisions, ou les réflexions, les scénarios proposés par les experts il y a une quinzaine d'années. Je veux dire, même en Suisse, il y a encore 5 ou 6 ans, vous aviez, sur le plan politique, pas trop de difficultés à trouver quelqu'un qui disait le changement climatique n'existe pas. Aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Plus personne ne vous dira cela. Et tous les pays sont touchés à des degrés divers et avec des éléments qui peuvent varier. En Suisse, nous n'avons pas en particulier vu d'explosion de fort développement des incendies, mais par contre, nous sommes très fortement touchés dans les zones alpines. L'augmentation des températures en Suisse est plus de 2 fois supérieure à la moyenne mondiale. Nous avons un problème avec les glaciers, avec les équilibres en eau, le risque de voir des catastrophes naturelles se multiplier. Ça, c'est le problème que nous avons en Suisse, mais chaque pays est confronté d'une manière très directe à cette problématique.
Pour la Suisse, justement, il y a une initiative populaire qui sera soumise au vote des Suisses. Exactement. Dans 2 mois, le 18 juin. Elle propose plutôt cette initiative, une série de mesures pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mmh. Elle est soutenue par de nombreux élus. Est-ce que vous en faites partie ? Est-ce que vous la soutenez aussi ?
Oui, bien sûr. Il s'agit en fait d'un contre-projet à une initiative. C'est là-dessus qu'on va voter le 18 juin. Et c'est, je crois, un texte très très important parce qu'il fixe non seulement l'objectif, mais aussi des mesures pour l'atteindre. Ça c'est la démocratie directe en Suisse. Chaque projet important, sujet important, sera soumis à votation populaire et nous espérons bien qu'il soit possible de faire une majorité pour ce projet.
Quand on parle de mesures, les mesures peuvent être très différentes et venir de camps politiques très différents, avec des philosophies très différentes. Par quoi doit passer en priorité cette lutte contre le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est par plus d'innovation ? Et on sait que la Suisse est un pays particulièrement bien placé dans le monde sur le plan de l'innovation, ou est-ce que c'est plutôt par la sobriété, donc par le changement de nos modes de vie, priorité.
Je pense que c'est un peu des deux. On doit réussir à, dans le fond, organiser le futur de manière à ce que ce ne soit pas simplement devoir renoncer à tout. Donc évidemment, il faut être attentif à la sobriété. Évidemment, on doit vraiment améliorer l'efficience. En matière d'efficience énergétique, on peut faire énormément de choses. Et d'un autre côté, travailler bien sûr sur l'innovation. Et là, nous avons beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses aussi qui peuvent se développer. On a encore des gros efforts à faire en Suisse en matière de développement d'énergie solaire, d'éolien. Mais il y a aussi des techniques ou des innovations qui sont développées dans d'autres pays qui peuvent nous intéresser de manière très importante. Je vais avoir l'occasion, par exemple, tout prochainement, de visiter un très grand projet en Islande, dans lequel la Suisse a aussi joué un rôle sur la captation du CO2. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se développent et je crois qu'il faut soutenir cette inventivité, cette innovation. Dans les moments difficiles, on a toujours su, on a toujours réussi à trouver, dans le fond, l'innovation nécessaire pour changer de paradigme. Là, on ne voit pas exactement encore ce que ça pourrait être. Mais très honnêtement, on en a besoin. Et faisons confiance à l'intelligence collective pour progresser.
Dans l'actualité, Alain Bercy, il y a aussi les suites de l'affaire Crédit Suisse. On en parlait, on va en parler encore avec Serge Anverlin. Son rachat en catastrophe par UBS il y a un mois environ. Vous étiez, entre autres, à la manœuvre. Hein. C'était une opération nécessaire, avez-vous dit alors en substance. Opération menée dans l'urgence qui, cela dit, a suscité et continue de susciter de la colère contre les banquiers, notamment. Exemple avec ce reportage de la RTS.
Rappelez-vous ce cortège aux allures funèbres. Karine Keller-Souter, Alain Berset se préparait à annoncer l'impensable, la mort de Crédit Suisse. Ce soir-là, les banquiers étaient là aussi. La Suisse, aujourd'hui, est en colère. La Suisse politique aussi. Alain Berset avait ses mots à la tribune du National. Écoutez bien la nuance.
La disparition du Crédit Suisse n'est pas celle de la Suisse. Mais c'est la disparition d'une banque, et d'une banque uniquement, ni plus ni moins.
Et puis le sénateur Zanetti, lui aussi, pas tendre du tout avec les banquiers.
J'ai beaucoup plus de respect pour un simple braqueur de banque. Il prend un risque entrepreneurial bien plus grand que tous ces petits malins de la Bahnhofstrasse et de Wall Street.
Aujourd'hui, sur la Bahnhofstrasse, justement, et ailleurs aussi, la question c'est de savoir comment mieux contrôler ces banquiers. Quel garde-fou mettre en place? On parle notamment de réguler les fonds propres et les bonus.
Les bonus, ça a le même effet que l'alcool au volant. Ça fait perdre la perception et ça fait prendre des risques inconsidérés.
On doit impérativement commencer à mettre un certain nombre de cautèles parce que finalement, c'est quand même trop facile de faire de l'argent et de s'en aller quand ça se casse la figure.
Quant à l'instauration d'une commission d'enquête parlementaire, l'idée se précise.
Il faut, à mon avis, une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui n'a pas fonctionné dans le Crédit Suisse, dans la surveillance de la banque.
Personnellement, j'ai soutenu en séance de bureau l'idée d'une enquête parlementaire.
Il faut tirer cette affaire au clair de façon à ce qu'elle ne se reproduise pas. Et ça, il n'y a qu'une commission d'enquête parlementaire qui aura la force de le faire.
On ira jusqu'au bout pour finalement montrer à la population qu'on ne peut plus continuer avec ce genre de responsables irresponsables.
Le Parlement devra en discuter, il faudra alors éplucher les comptes et ouvrir tous les placards, comprendre comment la Confédération a négocié avec les banquiers et engagé 109 milliards de francs pour permettre le rachat de Crédit Suisse.
Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet? Est-ce que vous y êtes favorable à l'inverser?
En tout cas, je suis très favorable à ce que la lumière soit faite complètement si le Parlement le souhaite, mais c'est à lui d'en décider. C'est un outil de surveillance de l'activité du gouvernement, de mise à plat des éléments, et nous n'avons évidemment rien à opposer à ce que ce soit réalisé.
Le Conseil fédéral a décidé de supprimer les bonus des actuels dirigeants de Crédit Suisse pour l'année dernière et pour cette année, jusqu'au rachat effectif de la banque par UBS. Certains parlementaires suisses demandent, on l'a vu, plus d'encadrement de ces bonus de manière beaucoup plus générale et pour toutes les banques. Est-ce que là aussi, vous êtes d'accord avec eux?
Bien, on va devoir faire une analyse complète. Parce que je vous dis franchement, ce qu'on entend aujourd'hui, on l'entendait de la même manière après le sauvetage d'UBS dans la crise financière en 2008.
Et pourquoi rien n'a changé alors?
Non, les choses ont beaucoup changé. On a eu beaucoup d'éléments, d'ailleurs pas seulement en Suisse, mais sur le plan international. On a essayé de cadrer les banques pour que les choses ne se reproduisent pas. C'était le même discours.
C'était Bâle 3.
Augmentation des fonds propres, augmentation des coussins de liquidités, augmentation de la surveillance et de la régulation.
Mais ça marche dans les banques européennes. Et pourquoi ça ne marche pas en Suisse?
On a dû constater, bien parce qu'on a été confronté avec Crédit Suisse à autre chose. Crédit Suisse était effectivement une banque très bien capitalisée, avec des liquidités solides et qui remplissait toutes les exigences nouvelles qui avaient été fixées.
C'est l'une des 30 plus grandes banques du monde.
C'était l'une des plus grandes. Et le problème que nous avons eu avec cette banque, c'est des erreurs de management successives depuis une quinzaine d'années qui ont conduit à une rupture de la confiance. Et dans une banque dont les activités sont fortement fondées sur la confiance, vous pouvez avoir une capitalisation qui est au top, vous pouvez avoir des liquidités suffisantes. Dès le moment où la confiance n'est plus là, c'est une érosion lente qui va se passer jusqu'à la disparition de la banque. C'est ce qui s'est produit en plusieurs vagues d'ailleurs. Cette bonne capitalisation de la banque a conduit à ce que ça ne se produise que cette année. Sinon, ça aurait été probablement l'automne dernier qu'on aurait eu ce problème. Et donc, c'est un problème qui ne correspond pas à ce qu'on avait vu en 2008. Et on doit vraiment se demander comment faire cette fois pour que ça ne recommence pas? Je dois constater quand même que les banquiers, avec cette logique trop grand pour faire faillite, ont l'occasion de faire porter sur l'État et sur la collectivité les problèmes lorsqu'ils se présentent. Ce n'est pas imaginable que ça se poursuive.
Ce qui a beaucoup frappé, c'est que l'État fédéral suisse, qui habituellement est peu interventionniste, a vraiment mis tout son poids dans la balance pour quasiment forcer UBS, qui n'était pas vraiment désireux de le faire, de racheter Crédit Suisse pour sauver cette banque. En faisant ça, on a aussi enfreint des lois et des règles, notamment les respects du droit des actionnaires et des obligataires de Crédit Suisse. Et là, le Conseil fédéral, visiblement, n'a pas eu de peine à transgresser ses propres lois. Alors pourquoi on arrive à le faire dans le cas du sauvetage d'une banque et pas pour les exportations d'armes avec le problème de la neutralité? Ça, c'est un peu difficile à comprendre.
Non, c'est pas du tout la même chose. En réalité, on a dû le faire ici parce que nous n'avions pas d'alternative et que si nous ne l'avions pas fait, la catastrophe aurait été programmée. On avait plusieurs scénarios, hein, parmi lesquels laisser partir la banque en faillite, la reprise par l'État. Il y avait plusieurs choses possibles. Et on est arrivé à la conclusion assez rapidement, en voyant tous ces scénarios, que la disparition de la banque par une faillite aurait eu des conséquences dramatiques sur l'économie du pays et le fonctionnement du pays sur le plan économique, mais que ça aurait vraisemblablement créé une crise internationale, une crise financière internationale de grande ampleur. Nous l'avons craint, il y avait des éléments qui parlaient dans ce sens, et nous n'avions pas alors les éléments encore mis à jour dans les lois pour pouvoir apporter les liquidités nécessaires pour tenir la fin de la semaine quand les choses ont mal tourné, et puis ensuite pour conduire au rachat. Ben, ce n'est pas une base légale, ça. C'est une décision d'UBS de racheter le Crédit Suisse. C'est en fait une transaction entre deux acteurs privés. Et vous avez dit, et je crois que ça ne correspond pas à la réalité, vous avez dit on a dû forcer UBS à racheter. Non, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à racheter. Vous ne pouvez pas forcer un acteur en bonne santé à racheter une banque qui ne serait pas en bonne santé. Je crois que pour UBS, les conditions ont permis de faire le rachat parce que les conditions étaient bonnes. Pour Crédit Suisse, c'est autre chose parce que naturellement, la banque a été vendue à un prix très faible.
UBS n'était pas candidat à l'origine pour racheter Crédit Suisse. On lui a fortement suggéré tout de même.
Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je vous dis franchement, il y a eu un moment où, parmi ces scénarios, le rachat par une grande banque qui pouvait le faire s'est dessiné. Et puis, il fallait ensuite que les conditions permettent à UBS de racheter la banque.
Juste pour terminer avec ça, le risque systémique mondial en cas de faillite de cette banque était tel que vous avez eu des pressions de l'étranger pour accélérer cette opération?
Moi, j'ai pas du tout senti de pression. Nous avons fait face à nos propres responsabilités. J'ai pas senti du tout de pression. Par contre, une préoccupation, on va le dire comme ça. Mais vraiment, qui a très bien évolué dès le moment où on a pu indiquer que nous étions conscients de ce que cela signifiait pour la Suisse et aussi pour le reste du monde, et que nous étions en train de travailler à des solutions. Donc il n'y a pas eu, à ma connaissance, de pression extérieure.
On a vu tout à l'heure donc ces critiques qui portent sur les actions menées par les anciens dirigeants de Crédit Suisse, enfin anciens et actuels. D'autres critiques portent-elles sur l'action des dirigeants politiques, celle de l'ancien conseiller chargé des finances, par exemple, Uli Maurer. Il se demandait clairement s'il ne fallait pas plus faire confiance aux banquiers qu'aux fonctionnaires chargés de les contrôler. En 2018, il mettait en garde contre ce qu'il appelait la contrôlitis, selon lui la maladie du contrôle étatique. L'État suisse est-il en partie responsable de la chute de Crédit Suisse, Alain Berset? En tout cas, est-ce qu'il a fait preuve de laxisme?
Ah non, je ne crois pas. Écoutez, depuis 2008, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour...
Précisément... Ce sont les dirigeants de Crédit Suisse qui sont les seuls responsables?
Écoutez, quand une banque multiplie les erreurs de gestion, que les actionnaires ne font rien pour les corriger, et puis que ça termine par une faillite, par une faillite, ça devrait faire partie d'un système économique normal que de voir une entreprise pouvoir partir en faillite. Là, le problème, c'est que le départ en faillite de ce type d'entreprise, de cette entreprise-là, aurait probablement conduit à des immenses problèmes pour le pays et aussi à une crise financière internationale. Ça aurait peut-être emporté d'autres banques dans la vague, et ça, nous n'avons pas voulu le risquer. Donc, nous avons ensuite soutenu l'idée du rachat de cette banque par une autre banque. Ça a d'ailleurs très, très rapidement calmé les marchés. Mais je crois que ce serait un peu facile, après coup, de rendre l'État responsable de cette situation parce qu'on n'aurait pas fait les pas nécessaires en matière de régulation. Peut-être qu'on aurait pu faire plus, peut-être qu'on aurait pu faire différemment. La question va se poser maintenant. Que faut-il faire ensuite? On entendait tout à l'heure les parlementaires dire il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais on disait la même chose en 2009 et 2010. Et oui, on doit chaque fois se poser sérieusement la question de comment faire pour ne pas faire courir un risque toujours porté à la fin par les États et les collectivités publiques.
Il nous reste 5 minutes, Serge Anderman.
À cette occasion, c'est un des mythes suisses qui s'est un peu effondré. Tout de même, la stabilité bancaire légendaire d'une très très vieille banque qui est identitaire dans le pays. Elle a financé les tunnels sous les Alpes dans le siècle dernier ou même le siècle d'avant. Comment vous avez, en tant que ministre et président en exercice de ce pays, vécu cette crise? Est-ce que c'est l'image de la Suisse qui est touchée?
Non, je crois que l'image de la Suisse aurait été fortement écornée, fortement touchée si nous avions été à l'origine d'une crise financière incontrôlable sur le plan international. Là, ça n'est pas le cas. Je crois que nous avons pu agir. On peut discuter de la méthode, on peut discuter des moyens, on peut discuter des résultats. Mais enfin, nous avons pris nos responsabilités dans un moment où il fallait aller très vite et dans un moment où la pression était, dans le fond, sur les décisions à prendre absolument énorme. Cela dit, comme je le disais au Parlement, c'est la disparition d'une banque qui a une très longue histoire dans le pays, mais ce n'est pas la disparition de la Suisse.
C'est aussi la disparition d'investissements pour plusieurs des particuliers, des obligations émises par le Crédit Suisse qui ne valent plus rien aujourd'hui. Des plaintes ont été déposées d'ailleurs contre l'État à ce sujet. Cela aura des répercussions à long terme pour toute dette financière suisse, disait l'un de ces détenteurs d'obligations au Financial Times il y a quelques jours. Là, on ne parle pas de l'image, mais de la confiance des investisseurs dans le système suisse. Cette confiance, comment vous comptez la restaurer, elle qui a été écornée?
Je crois d'abord qu'on a montré que, confronté à une situation où potentielles conséquences incalculables, nous avons su réagir avec détermination quand c'était nécessaire. Bon, après, on pourra toujours le critiquer, je le vois bien. Il n'y a que ceux qui font rien, qui n'arrivent pas de critique. Oui, on a agi là pour éviter des problèmes plus larges. Par rapport aux investisseurs qui étaient auprès de Crédit Suisse, bah, la question qu'on pourrait leur poser, c'est qu'ont-ils fait, alors que les problèmes se sont multipliés pendant 12 ou 15 ans, pour que la banque change ses pratiques. Il y a une assemblée générale des actionnaires chaque année qui aurait pu prendre les choses en main. Il faut quand même reconnaître que ça n'a pas été fait, en tout cas pas de manière à ce que ça ait des conséquences suffisantes. Et donc, une fois la facture arrive, l'alternative pour ces investisseurs, ça aurait été la mise en faillite de Crédit Suisse. À ce moment-là, elle n'aurait pas été vendue 3 milliards de francs à UBS, sa valeur aurait été de zéro. Ça, c'était l'alternative. Donc, à partir de là, les choses... Mais l'un comme l'autre ne sont pas de très bonnes solutions. Hein. On aurait préféré, nous, que ça n'arrive pas. On aurait préféré, nous, que chaque banque prenne ses responsabilités, fasse son travail, que ça n'arrive pas au Crédit Suisse. Dès que c'est là, ma foi, il faut agir.
Cette fusion, Alain Berset, mais aussi le débat autour de la neutralité, la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça, ça fait partie des principaux sujets qui animent le débat politique, en Suisse particulièrement, à 6 mois maintenant des élections fédérales. Dans les sondages, c'est l'UDC, le Parti populiste, je le disais, qui est en tête, avec près de 27% des intentions de vote et qui semble progresser. Qu'est-ce que vous dites de cette situation? Est-ce que ça vous inquiète?
Non, ça ne m'inquiète pas. Je veux dire, on a des élections. Les élections, c'est ce qu'on peut souhaiter mieux dans une démocratie. Hein. Donc, que les citoyennes et les citoyens s'expriment.
C'est un adversaire politique, l'UDC, pour vous?
Oui, bien sûr. Mais on a en même temps un gouvernement de coalition qui paraît presque impensable à l'étranger. On a les quatre principaux partis représentés au gouvernement. D'une coalition qui va de la droite à la gauche, hein, en passant par toutes sortes de couleurs. Donc ça marche bien, c'est un peu l'histoire et l'ADN aussi politique de notre pays. Et puis, en général, en Suisse, on n'a pas de grand renversement en matière de pourcentage. Donc le parti dont vous parlez maintenant, il était peut-être à 26 la dernière fois. On parle de 25 ou de 27 maintenant en termes de pourcentage. C'est pas des grands renversements. Et pareil pour les autres partis. Donc ce qui risque de dominer, je pense, c'est une grande stabilité. Et cette stabilité, très honnêtement, ce n'est pas une mauvaise choses pour les équilibres dans le pays.
Encore quelques mots, vous serez à nouveau candidat à ces élections. Ça fait plus de 20 ans que vous faites de la politique, d'abord au niveau local, puis au niveau national, 12 ans que vous siégez au Conseil national. C'est une longévité qui parfois peut agacer, qui a été critiquée aussi. Pourquoi vous ne laissez pas votre place et voilà, on vous demande, est-ce que vous pensez que vous êtes irremplaçable?
Ah non, tout le monde est remplaçable. Alors ça, c'est absolument clair pour moi. Non, écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure dans le sujet qui est de portrait, je suis d'assez loin d'ailleurs encore le plus jeune en fonction, le plus expérimenté dans la fonction, mais le plus jeune en fonction. Et donc la question ensuite qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut le mieux possible servir son pays? Mais c'est ça qui domine. On se pose à tout moment la question de savoir si les conditions sont réunies pour poursuivre, c'est clair.
Encore une question, ce sera la dernière. Vous avez été président de la Confédération en 2018. Vous l'êtes une seconde fois donc cette année. C'est une fonction qui vous a amené et qui vous amène encore à voyager beaucoup, à participer à de nombreuses rencontres internationales. En 5 ans, est-ce que vous avez vu une évolution de la place du français dans ces rencontres?
Très bonne question et qui nous préoccupe beaucoup. Moi, j'ai considéré toujours... le français est une langue extrêmement importante qui nous lie avec la francophonie à un tiers environ des États membres de l'ONU, quand même, c'est très important. Hein. Et je n'ai pas senti de recul, ce qui est déjà une très bonne chose dans ce que j'ai pu voir. Mais c'est un engagement constant aussi pour la langue et les valeurs qu'elle sous-tend.
Sur le français, est-ce que le multilinguisme, c'est une approche aussi que vous défendez, on le comprend très bien dans un État multilingue comme l'est la Suisse, est-ce que c'est une manière de défendre le français aussi, de défendre cette approche?
Complètement. C'est assez étonnant de le formuler comme ça d'ailleurs, mais complètement. Et je pense que dans l'immense majorité des pays francophones, eh bien, ce sont généralement des pays multilingues, où le français a une place très importante. Pas toujours dominante, mais très importante. Mais la plupart des pays francophones sont multilingues. Et c'est très bien ainsi. C'est en fait un enrichissement, je crois, très important. On le voit en Suisse, aussi avec les langues que nous avons, qui nous donnent un accès à des espaces culturels et de valeurs qui sont différents et en tous les cas complémentaires.
Merci beaucoup. Merci Alain Berset. Merci d'avoir répondu aux questions internationales aujourd'hui. Merci Serge Anderlin du journal Le Monde. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet tv5monde.com et sur notre plateforme TV5Monde+. Je vous dis à la semaine prochaine.